RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct pour le dernier magazine régional de la semaine, le 18-19 en Champagne-Ardenne. Dans quelques instants, la chronique d'actualité. Nous serons avec le professeur Jacques Cohen avec cette question plutôt étonnante qui nous expliquera pourquoi on lui pose « De quoi est-on mort en France en 2022 ?» Vous le savez, le vendredi, on regarde aussi du côté de nos diocèses et notamment du diocèse de Reims et des Ardennes avec l'archevêque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera avec nous pour poser son regard sur l'actualité dans le monde mais aussi dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Notre stagiaire à la rédaction, Raphaël Ruel, passera nous faire un petit coucou. Il sera avec nous pour nous dire comment il a vécu ce stage. À 18h30, ça sera l'heure du journal régional. Et puis ensuite, on aura encore quelques témoignages dans cette émission en deuxième partie, avec notamment le docteur Hervé Runard qui sera avec nous. Mais aussi, nous serons avec Frédéric Doré, chargé de communication au parc d'attractions Nigloland. Et puis, nous aurons un autre invité en studio, une autre invitée, Sandrine Segovia-Queny, qui a été nommée le 1er juin dernier déléguée territoriale de la Marne à l'Agence Régionale de Santé. Elle succède à Thierry Alibert. Vous en saurez plus dans quelques instants. Mais pour commencer, comme tous les vendredis, nous sommes avec le professeur Jacques Cohen, avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est vrai que parfois, lorsque l'on parle de sujets d'actualité, on a besoin de prendre du recul, on attend un petit peu des bilans, des statistiques, etc. C'est ce qui nous amène à parler aujourd'hui d'un certain sujet, les morts en France en décembre 2022, avec cette question, Jacques Cohen, que vous m'avez demandé de vous poser et à laquelle vous allez tenter de répondre. De quoi est-on mort en France à la fin de l'année dernière ?
Eh bien, la première surprise constatée dans les relevés INSEE, c'est qu'il y a un pic de mortalité non négligeable. Pour donner une base de comparaison, la mortalité arrive vers 2500 par jour au jour le plus élevé, alors que le pic, par exemple, du premier pic de Covid était vers 2750. Mais, paradoxalement, il est mort beaucoup plus de gens en fin 2022 qu'en mars 2020, parce que le pic de Covid initial était étroit sur 15 jours, tandis que là, ça s'est passé sur plus de 2 mois, entre novembre et fin janvier. Donc, on a une situation extraordinaire qui montre une mortalité importante, dépassant celle du premier pic de Covid, et on ne sait pas ce que c'est. Alors, évidemment, quand on ne sait pas, on dit que c'est un peu tout. Il y a un peu de Covid, il y a un peu de grippe, il y a un peu de VRS, parce qu'on néglige les VRS, mais ça peut être d'autres pathologies infectieuses ou n'importe quoi d'autre, mais on n'en a pas d'éléments de précision. Alors, ce qui est très agaçant, c'est que le Covid n'a pas l'air d'avoir servi de leçon. Santé publique France n'a pas développé de réseau sentinelle ou ne les a pas pérennisés. Il n'y a pas dans les eaux usées, avec des recherches virales multiples, etc., etc. Ce que pourtant maintenant tout le monde sait faire, même nous, mais qu'on ne fait pas. Et on ne fait que constater qu'il y a eu une mortalité importante et dont on ne connaît pas la cause. On n'est même pas capable de dire si ça a donné un pic hospitalier. Donc on peut dire que là-dessus, Santé publique France est aux abonnés absents, au contraste de l'efficacité de l'INSEE, qui, elle, travaille sur les bulletins de décès. Alors, on a un autre élément dans les relevés de l'INSEE, c'est sur l'année. Là, je ne peux pas encore dire si c'est surtout en décembre, mais c'est sur l'année, on a une surmortalité des moins de 50 ans, de 3500 personnes. Alors, vous allez me dire que 3500 personnes sur 600 000 morts par an, c'est une rigolade, mais pas du tout, parce que sur les 600 000, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et donc, 3500 parmi les jeunes, parce qu'on va décider que les jeunes sont les moins de 50 ans, c'est très significatif. Et là aussi, on n'a aucune idée de la cause, ce qui est quand même très dommage.
Mais alors Jacques Cohen, petite question parallèle, mais j'allais dire, ces statistiques d'un côté sont intéressantes, mais le fait de ne pas savoir la cause, là c'est, je m'adresse aux professeurs de médecine, vraiment, comment on fait pour avancer en médecine, pour essayer d'en savoir plus? Est-ce qu'il est encore temps de pouvoir récupérer des informations à ce sujet, ou est-ce que désormais c'est trop tard, ou est-ce que peut-être que dans quelques mois on aura des données plus précises? Est-ce qu'on va pouvoir avancer finalement?
On pourrait, à condition de creuser, d'aller creuser, si j'ose dire, parce que les données, elles existent bien quand même quelque part. On peut repérer les nombres d'infarctus, par exemple. On peut repérer la consommation de paracétamol pour savoir si c'est infectieux ou pas. On a un certain nombre d'éléments qui permettent, a posteriori, d'avancer. Et puis même, des prélèvements viraux, a posteriori, on peut arriver à en faire encore. Mais il faut décider qu'on va mettre le paquet et qu'on va mettre les moyens pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et pour l'instant, ça n'a l'air d'inquiéter personne. On retombe sur ce problème quasiment philosophique. C'est qu'à partir du moment où on a décidé que le Covid, c'était fini, non seulement c'est le Covid, on n'en parle plus, mais toutes les pathologies aiguës, infectieuses, toutes les épidémies, au sens large, hein, Et on n'en parle plus non plus. Au sens large, parce que des épidémies, c'est par exemple des conditions de travail qui donnent un pic de mortalité parce que les gens sont fatigués ou sont stressés, qui donnent un pic de mortalité coronaire, ou bien une recrudescence des accidents de la route en allant au boulot en retard. Mais ça, on n'en sait rien parce qu'on ne cherche pas correctement. Et pourtant, la santé publique, c'est d'avoir des paramètres qui permettent de comprendre ce qui se passe et de ne pas rester à des choses vagues qui est par analogie de dire « Ah ben, c'est peut-être plus le Covid, mais il y en avait quand même encore un petit peu, puis il y a eu de la grippe, puis il y a eu du VRS. » C'est d'autant plus important que pour le VRS, se profilent plusieurs vaccins qui vont être en concurrence, qui sont efficaces, mais dont le taux d'effet secondaire n'est pas précisé, à peu de chances d'être identique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes adjuvants. Et l'un d'entre eux pose d'ailleurs quelques soucis, parce que lorsqu'il a été fait avec le vaccin antigrippant, ils ont fait les deux à la fois, dans l'essai clinique, on a eu deux encéphalites. Deux encéphalites mortelles. Donc, il y en a quatre autres qui suivent. Celui-là, il sera modifié probablement. Mais on a la perspective d'en finir avec la mortalité des enfants et surtout des personnes âgées, parce que les personnes âgées en VRS, elle est sous-estimée. Elle est de l'ordre des épidémies de grippe ou de Covid, avec un vaccin efficace. Et il restera à voir maintenant quelle va être la bonne formule d'équilibre entre le vaccin et son adjuvant, et le type d'adjuvant, pour permettre de se débarrasser enfin des VRS, ce qui n'est pas négligeable, je pense que c'est de l'ordre de 20-30 000 morts par an.
D'ailleurs, Jacques Cohen, au début de votre exposé, lorsque vous nous expliquiez les causes de mortalité en France au mois de décembre 2022, vous avez fait également un point sur l'âge. Est-ce qu'on est plutôt jeune? Est-ce qu'on est plutôt une personne âgée? Vous expliquiez qu'il y avait quelques surprises. Est-ce que les courbes que l'on a, cependant, correspondent à des maladies que l'on aurait pu identifier? Par exemple, pour continuer ce parallèle avec le Covid, est-ce que les courbes sont similaires à celles que l'on relevait par rapport aux personnes décédées du Covid? Ou est-ce que c'est finalement assez instable? Ça ne signifie rien? Comment on les analyse finalement?
Eh bien, on ne peut pas les analyser parce qu'on n'a pas de courbe. Il n'y a pas de relevé correct qui a été fait. Il n'y a pas de réseau sentinelle pour avoir des éléments en temps réel. Et a posteriori, ça va être très compliqué d'essayer de retrouver des indices permettant de dire qu'il s'est passé ceci ou cela. Pourtant, c'est quand même ce qu'il faudrait parce que, justement, l'étude coût-bénéfice, par exemple, des vaccins anti-VRS, ça va dépendre aussi de ce qu'il y a comme coût, c'est-à-dire comme mortalité chez les personnes âgées. Là, on n'en a pas de certitude. Tout ça souligne le retour, si j'ose dire, à l'impréparation de la santé publique.
Alors, pour nous présenter tout ça, Jacques Cohen, vous êtes appuyé sur les sources de l'INSEE, mais également de Santé publique France. Ce sont deux institutions qui travaillent différemment et j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il y en a une qui fait mieux son travail que l'autre.
On n'ira peut-être pas clairement jusque-là, mais l'INSEE, c'est la statistique nationale, ça dépend de Bercy. Ils travaillent bien, ils ont des moyens. Quand ils obtiennent quelque chose, ils demandent à la Maison Robert et ils les obtiennent. Et ils ont aussi une envie, c'est que toute la statistique de santé finisse par atterrir à la statistique nationale chez eux. De l'autre côté de la Seine, Santé publique France, c'est l'avenue de Ségur, c'est le ministère de la Santé. Et c'est un conglomérat assez hétéroclite qui fait beaucoup trop de choses différentes et de façon inégale et avec des moyens imparfaits. Le résultat étant que c'est moins percutant qu'une force affûtée et monothématique, si j'ose dire.
Eh bien, professeur Jacques Cohen, on aura certainement l'occasion d'y revenir et puis de voir comment des chiffres évolueront, peut-être ou peut-être pas. J'allais dire affaire à suivre, mais là, pour une fois, souvent, je vous dis, selon la boule de cristal, on va voir comment ça va évoluer. Là, même avec une boule de cristal, c'est difficile de voir ce qu'il se passera dans l'avenir.
Ah là, on n'est pas sur l'avenir, mais on est maintenant de creuser ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé peut être un enseignement utile pour l'avenir.
Eh bien, merci, professeur, de nous avoir éclairé. Et puis, pour plus de renseignements, on a toujours un rendez-vous, un lieu où on est bien orienté, bien renseigné. C'est votre blog, jhmcohen.com. À très bientôt, professeur.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h20, désormais, on donne la parole à l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui s'entretient avec Jean-Pierre Benoît.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Toujours en direct, le vendredi, sur RCF, comme archevêque de Reims, et je dis toujours, et j'ajoute toujours, président de la Conférence des évêques de France. L'actualité, Monseigneur, on vient de l'entendre il y a quelques instants, ce sont les violences, les émeutes qui se déroulent un peu partout en France.
Ça est affreusement triste. On sait depuis longtemps qu'il y a beaucoup de violences contenues, y compris dans notre région d'ailleurs. que ce soit à Reims, que ce soit à Charleville. Alors cette violence, elle a des tas de causes, y compris malgré tout aussi le trafic de stupéfiants qui y contribue, mais pas seulement, aussi un problème de fracture sociale qui est bien analysé aujourd'hui, mais devant lequel on se trouve un peu impuissant. Et voilà, et des événements, des drames comme celui d'il y a trois jours avec la mort de ce garçon tué par un policier, on rajoute encore, surtout que c'est la 13e mort depuis le début de l'année pour refus d'obtempérer, donc dans des circonstances plus ou moins semblables. On voit bien que les forces de police se trouvent débordées par le comportement d'un certain nombre de gens, jeunes ou pas jeunes, qui ne respectent pas les policiers, qui n'obéissent pas aux ordres, qui commettent des vols ou qui se comportent d'une manière qui n'est pas admissible, et qui entraînent en quelque sorte les policiers à monter dans la gamme des réactions, ce qui fait qu'on aboutit à des drames atroces comme celui d'il y a trois jours. Et puis, de l'autre côté, encore une fois, des jeunes et des moins jeunes qui sont prêts à beaucoup de violence. Donc, évidemment, il faut appeler à la paix des esprits. C'est pas la peine que d'autres en rajoutent. Il n'est pas normal que tout un environnement, au lieu d'appeler à la paix, encourage la violence, dégrader les biens publics, casser des abribus. Ça ne résout rien et ça ne fera pas avancer les choses. La justice va faire son métier. Va faire son travail, ça ne rendra évidemment pas la vie à ce garçon. Il faut aussi voir comment accompagner sa famille, mais c'est là que la solidarité doit se manifester et pas dans l'excitation et la violence auquel on assiste aujourd'hui.
Vous allez peut-être, mais ça, vous le verrez, Monseigneur, faire une communication avec les évêques de France.
On dira peut-être un mot, c'est surtout avec tout l'ensemble des religions de France peut-être qu'il faudrait dire quelque chose. Mais bon, nos mots ne serviront rien. Ce qui compte, c'est que sur le terrain, à proximité des endroits où il y a de l'agitation, des gens agissent pour contribuer à la paix, ramener à la paix.
Monseigneur, dans un tout autre domaine, cette semaine, vous étiez déjà en direct lundi soir. Nous avons appris lundi la nomination d'un évêque auxiliaire, Monseigneur Étienne Véteux. Donc ça, c'est un événement important.
C'est un événement important parce que ça fait 2 ans que nous l'attendons, depuis le départ de Mgr Feillet pour C. Donc, pour ma part, c'est une grande joie. Je pense que ça l'est aussi pour notre diocèse. Ça nous fera une aide bienvenue. Et puis quelqu'un qui aura un regard neuf aussi sur notre diocèse, qui pourra nous aider donc dans la transformation pastorale et missionnaire que nous avons à vivre. Je pense que les auditrices et les auditeurs ont pu regarder un petit peu... Son curriculum vitae, la vidéo qu'il a faite avec Catéo, en tout cas tout ça est facilement accessible sur le site de Catéo, de RCF ou du diocèse. Et voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est un théologien profond, qui s'est enseigné, qui s'est parlé, qui sait réfléchir, mais qui a aussi une belle expérience pastorale, assez variée, auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc, j'espère qu'il nous aidera bien dans ce que nous avons à faire ici.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler et d'évoquer, puisque nous approchons des vacances et de l'été, le pèlerinage diocésain de Lourdes, qui est un grand rendez-vous.
Oui, voilà, du 16 au 21. Du 16 au 21 août. Le pèlerinage de Lourdes, chaque année, c'est un beau moment. Diocésain, je crois savoir qu'il reste encore des places dans le train, donc que ceux qui hésitent se décident. Parce que plus on est nombreux, plus c'est facile, y compris pour payer le train en question, mais surtout pour vivre un beau moment de fraternité, de joie, d'échange, de partage, d'émotion, en accompagnant les personnes malades, en se découvrant les uns les autres, et en se confiant à la Vierge Marie dans le cadre de Lourdes. Voilà, le pèlerinage est toujours un moment intense et dans lequel il y a des gens de toutes les générations. Il y aura cette année des clercs, il y a des cadets, il y a des adolescents, il y a des jeunes de tous âges.
Il y a un brassage tous les âges.
C'est un brassage, donc c'est une belle expérience et une belle manière de vivre ses vacances ou de terminer ses vacances.
Alors, entre-temps, on va évoquer le pape en France, mais il y aura les JMJ, puisqu'on évoque l'été. Vous y êtes, Monseigneur, vous allez y aller.
J'y suis, comme d'ailleurs tous les évêques de la province et beaucoup d'évêques de France. Je crois qu'il y aura 70 évêques de France. Alors, certains 15 jours, d'autres une semaine, puisqu'il y a la première semaine dans les diocèses, pour nous à Coimbra. Et pour les autres, et puis le reste, une semaine à Lisbonne. Voilà, donc une centaine de jeunes de Reims, une centaine de jeunes de Soissons. Donc nous nous réjouissons d'aller ensemble. Ça fait un beau groupe qui sera, je pense, plein de vie. Et j'espère que tous ces jeunes vivront une belle expérience spirituelle de rencontre du Christ, d'approfondissement de leur foi et de leur raison d'être et de vivre.
Alors, Monseigneur, il y a aussi votre agenda avant de venir au pape en France. Vous allez la semaine prochaine aller dans les territoires d'outre-mer.
La semaine prochaine, je fais trois choses. La première, c'est une session de fin d'année avec le conseil de l'archevêque. Nous essayons de nous mettre un peu en retrait pour faire un peu le bilan de l'année, puis essayer de regarder un peu l'année qui vient. Ensuite, tout en étant dans un moment un peu de détente quand même, et puis dans un climat un peu de détente. Ensuite, je vais à Rome pour une session de formation auprès de la Congrégation Rédemptrice de la Foi et de la Congrégation des Évêques avec une trentaine d'évêques de France au moins. Il y a déjà eu deux sessions comme ça, moi je participe à la troisième. Et puis ensuite, je vais à la Guadeloupe et en effet, pour l'ordination et l'installation du nouvel évêque de Basse-Terre. Parce que je crois important de montrer que ben, les dom-toms ou les dom et com ça, enfin, sont dans la France et que les évêques appartiennent à la conférence des évêques de France. Donc c'est une manière un peu symbolique de marquer la disponibilité de la conférence des évêques aussi à aider le nouvel évêque de la Guadeloupe en l'occurrence dans sa mission.
Et Monseigneur, le pape en France le 23 septembre.
Oui, voilà, ça, c'est un moment très, très important. Donc, le pape vient avant tout pour participer à des rencontres méditerranéennes qui sont des rencontres d'évêques et cette année de jeunes issus de tous les pays des bords de la Méditerranée. Il y aura eu trois jours de travail, de réflexion. Donc, le pape vient pour conclure, entendre les conclusions de ces trois jours et apporter sa propre contribution. Mais il a accepté non seulement de faire un temps de prière à Notre-Dame de la Garde, non seulement prier aussi pour toutes les personnes décédées dans la Méditerranée, mais aussi de célébrer la messe avec tous les Français qui voudront bien y venir. Et donc, voilà, le service des pèlerinages chez nous va organiser un transport en train. Et alors, ça dure trois jours, parce qu'il faut partir le vendredi, revenir le dimanche. Mais d'abord, Marseille, je tiens à le dire, Marseille, c'est vraiment un lieu de pèlerinage, parce que Marseille, c'est l'endroit par où un des endroits en tout cas par où le christianisme est entré dans les Gaules, avant de remonter le sillon rhodanien à Lyon, puis un beau jour à Reims. Donc c'est vraiment aller aux sources de la foi, l'abbaye Saint-Victor évoque cela, le vieux port évoque cela aussi, Notre-Dame de la Garde par certains côtés, donc c'est vraiment un pèlerinage de source de la foi, et puis c'est vraiment un lieu assez emblématique, ça nous ramène au début de notre conversation, des défis de la ville d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous. Bon, on aura l'occasion de se retrouver pendant l'été. On vous souhaite quand même de faire une petite pause.
Voilà, je dis au revoir aux auditrices et auditeurs pour le vendredi matin. On fait la pause jusqu'en septembre.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre. Il n'est pas tout à fait 18h30. Le temps pour nous de faire connaissance avec Raphaël Ruel qui vient de terminer son année de seconde au Sacré-Cœur à Reims et qui vient aussi de passer une semaine avec nous, avec la rédaction et l'équipe technique de RCF en Sardaigne. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Alexis.
Alors dites-nous en plus à nos auditeurs, Raphaël, qui êtes-vous ? Ils ont entendu votre voix tout au long de la semaine à travers la météo, mais finalement, ils ne vous connaissent pas.
Alors donc, je m'appelle Raphaël Ruel, j'ai 15 ans et je suis en fin de seconde au lycée Sacré-Cœur de Reims. Je suis le deuxième d'une famille de 6 enfants, une grande sœur et 4 petits frères.
Des responsabilités.
Oui, c'est surtout des fois très énervant. Comme loisir, je fais du tennis et je suis aussi scout d'Europe. J'aime le sport, surtout le tennis, le foot et les sensations fortes. Au niveau scolaire, j'ai des bonnes notes sauf en maths et en physique, mais de toute façon, je n'aime pas ça, du coup, ça ne me dérange pas.
Au moins, c'est clair, c'est honnête.
Pour mon année de première, j'ai choisi les spécialités HLP, AGG, SPSES, car plus tard, j'aimerais faire du droit ou du journalisme.
D'où votre présence ici cette semaine.
J'ai fait ce stage à RCF, car pour mon année de seconde, je dois faire un stage de découverte en fin d'année. Comme je m'intéresse au journalisme depuis pas mal de temps, je me suis dit que ce stage serait une bonne opportunité de découvrir le monde du journalisme, et comme mon père connaissait la radio RCF, je me suis dirigé ici. Le journalisme a commencé à m'intéresser après avoir lu un livre que je devais lire pour l'école sur un journaliste d'investigation. Et le livre m'a beaucoup plu et j'ai commencé à me renseigner sur le journalisme, les différentes branches du journalisme. Aujourd'hui, être journaliste sportif m'attire beaucoup, car j'aime beaucoup le sport et le journaliste et le sport ensemble, ça m'attire beaucoup.
Eh bien, en tout cas, merci Raphaël d'avoir passé ce stage à la rédaction avec nous. On espère que vous avez découvert pas mal de choses. On vous remercie pour votre implication, votre application. Et on vous dit à très bientôt sur RCF. Vous êtes notre monsieur météo cette semaine. Donc on vous retrouve dans quelques minutes à l'intérieur du journal régional qui commence maintenant. Les titres de ce vendredi 30 juin, au moment où la pendule flirte avec 18h30, la première pierre de la résidence Les Iris à Rethel a été posée, un projet porté par Habitat 08. La résidence senior Domitis, la Salamandre de Vitry-le-François, accueille une exposition de miniatures sur le Tour de France à l'occasion du début de la célèbre course cycliste ce week-end.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant de développer ces titres, nouvelle nuit d'émeute dans la région suite à la mort de Naël à Nanterre, notamment du côté de Reims où il y a eu des feux de poubelles, des voitures brûlées et de nombreux commerces pillés dans les quartiers Wilson, Châtillon, Croix-Rouge, Europe et Croix du Sud. Cette nuit, nuit d'émeute également du côté de Châlons-en-Champagne dans le quartier Schmitt. Il y a eu aussi des émeutes du côté de Charleville-Mézières dans le quartier de la Ronde Couture où on peut noter des poubelles incendiées et des tirs de mortier notamment. Ce sont les mêmes actes qui ont été recensés du côté du quartier Schmitt à Châlons en Champagne. Concernant la ville de Reims, sur le réseau social Twitter, le maire s'est exprimé vers 2h30 du matin. Ce soir, la racaille a pris prétexte d'un essai pour mettre à sac Reims, pour piller, pour brûler, pour détruire, simplement par plaisir. J'adresse tout mon soutien à nos forces de l'ordre qui sont confrontées à ces hordes de sauvages. Je suis présent au centre de supervision urbaine de la police municipale depuis le début de la soirée. Une chose est claire, ces gens-là n'ont qu'une place digne de leur sauvagerie, la prison. À savoir que la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, a également exprimé sa vive émotion via le réseau social Twitter. Hasard du calendrier, c'est au moment où le directeur Laurent Droulez a été évincé que la première pierre d'un projet de quartier de 76 logements a été posée au cœur de Rethel, ville de l'ancien président d'Habitat 08, Joseph Afribo. Cet événement symbolique marque le début d'un projet de construction ambitieux pour le premier bailleur des Ardennes, un projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour un coût estimé à 11,2 millions d'euros, qui est le fruit d'une collaboration entre les services de l'État, la Comcom du pays rethellois, la ville de Rethel, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement, la présidente d'Habitat 08, Marie-Josée Moser.
Alors c'est vraiment un moment symbolique, d'autant plus symbolique pour moi parce que voilà, présidente d'Habitat 08, c'est la première fois que je fais la pose de la première pierre et je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion aussi. Un programme ambitieux, un programme qui a coûté cher et je suis vraiment très très contente aujourd'hui d'être à Rethel. En plus, la ville de Rethel qui est quand même une ville qui bouge, qui est bien situé entre Charleville et Reims. Et quand on est sur l'autoroute et qu'on voit les grues, voilà, on est content pour bien sûr Habitat 08 que je préside et que j'ai l'honneur de présider, et aussi pour les entreprises qui vont travailler et puis tous les collaborateurs qui ont travaillé à ce beau projet.
À l'issue d'une première phase d'examen des candidatures et d'une seconde phase d'examen des offres, le jury a décidé de confier cette opération de conception-réalisation au groupement composé de l'entreprise Beck Construction Champagne, du cabinet Rémois, P plus S Architecture, un projet dont nous parle Fabien Passe, architecte et co-dirigeant.
Donc les trois points forts de ce projet que l'on a souhaité, c'était avoir des habitats comme des habitats individuels, tous avec de la qualité, des espaces extérieurs, des vues dégagées, des jardins. Et on a travaillé le site existant avec différentes terrasses pour proposer des vues dégagées, plutôt orienter les pièces de vie au sud et pouvoir amener un vrai niveau de confort pour les usagers. On a limité au maximum les espaces communs pour limiter également l'impact des charges pour les locataires. C'était un point important. Et par rapport à l'accroche à la ville, on a souhaité jouer avec un jeu de toit pour s'intégrer au mieux dans le tissu pavillonnaire du quartier.
Après la démolition de 80 logements à la Pertinguette, ce sont 76 logements neufs collectifs comme individuels qui vont être créés par Habitat 08 allant du T2 au T4, avec des extérieurs privés, balcons et jardins et avec deux places de parking par logement, une bonne nouvelle pour la cité Mazarin. Selon le maire Joseph Afribo, Rethel compte 49% de logements sociaux, 19% de chômage et 23% de pauvreté. Il faudra attendre le début de l'année 2025 pour voir s'installer les premiers locataires de la résidence des Iris, dont 36 logements sont aujourd'hui réservés à des familles concernées par la déconstruction de leur immeuble. Après le départ annoncé du procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, on a appris le départ de Omblyne Mahuzier, procureure de Châlons-en-Champagne. Elle avait pris ses fonctions le 1er juillet 2019. Elle s'apprête à prendre la tête du tribunal judiciaire de Colmar, en Alsace. Retour à Reims où le tramway ne circulera pas du 17 juillet au 20 août pour cause de travaux durant cette période. Pour pallier l'interruption complète de la ligne de tramway, Transdev Reims mettra en place une ligne de bus de substitution. Plus d'informations sont à retrouver dans le journal L'Union du jour. À la veille du départ du Tour de France et jusqu'au dimanche 13 août prochain, la résidence senior Domitis, la Salamandre de Vitry-le-François, accueille une exposition de miniatures sur le Tour de France ainsi qu'une exposition de timbres et de documents philatéliques appelée Domitis demi-tour. Alain Guiloni, président de l'univers cycliste Vitry-Frénicourt, est au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet.
Là aujourd'hui, en fait, on est en train d'installer une exposition alors sur deux thèmes. Le thème du vélo naturellement, mais le vélo à travers les miniatures de petites voitures avec le Club Tour de France miniature, et puis de petits cyclistes, mais aussi une exposition philatélique avec le club de Vitry-Courdemange où mon papa est trésorier pendant bien longtemps. Et moi, j'essaye de suivre, mais à plusieurs longueurs derrière. On a trois petites voitures Domitis qui ont été faites spécialement pour cette exposition qui va durer jusque la semaine qui emmène du 9 au 15 août. C'est-à-dire que les résidents de Domitis vont pouvoir bénéficier pendant 2 mois de cette exposition où ils pourront prendre plaisir tous les jours ou quand ils voudront. Et c'est même ouvert au public. Donc à partir de là, les vitrias et bien au-delà pourront aussi venir visiter puisqu'on a quand même quelques pièces originales. Et le 8 juillet, on accueillera avec justement l'équipe de Domitis des randonnées pédestres et randonnées cyclistes pour deux parcours pédestres de 5 km 200 et 9 km 900 et quatre parcours vélo de 20 km, 45, 70 et 90. Donc à la portée de tout le monde, l'intérêt est de rassembler le randonneur pur et dur au randonneur du dimanche. Donc on a 2 mois d'activité forte avant le Tour de France, pendant le Tour de France et après le Tour de France.
Les expositions sont visibles chaque jour de 8h à 20h jusqu'au dimanche 13 août à la résidence Domitis La Salamandre de Vitry-le-François aux 4 rues de la Glacière. Pour vous inscrire aux randonnées pédestres ou cyclo qui auront lieu le samedi 8 juillet, vous pouvez vous rendre à la résidence Domitis et le jour J à partir de 7h30. Les 3 euros d'inscription seront versés à l'association Arc-en-Ciel Vitria. Plus d'informations au 03 53 58 00 00. 03 53 58 4x0. Page sport désormais avec en football le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 1 connu depuis hier en milieu de journée. Le Stade de Reims se déplacera sur la pelouse de Marseille pour la première journée. Le week-end des 13-14 août, les Rouges et Blancs recevront Clermont pour leur première rencontre à la maison le week-end des 20 et 21 août. La confrontation tant attendue face au Paris Saint-Germain interviendra le week-end du 12-13 novembre pour le match au stade Auguste Delaune. En Ligue 2, 3 démarrera à l'extérieur le week-end du 5 août sur la pelouse de Dunkerque avant de recevoir Laval le week-end suivant. Avant de refermer ce journal, dernière météo de la semaine, déjà avec Raphaël Ruel, notre stagiaire à la rédaction. Alors Raphaël, quelles sont les tendances pour ce week-end en Champagne-Ardennes ?
Ce samedi 1er juillet, la matinée sera fraîche avec des températures de 15 degrés à Langres et 16 degrés à Charleville-Mézières et Épernay. Il pleuvra toute la matinée et l'après-midi dans tous nos départements sauf dans la Haute-Marne où il fera très nuageux dans la matinée. L'après-midi sera fraîche avec des maximales de 20 degrés à 3, 19 degrés à Châlons-en-Champagne et Chaumont. Le temps s'améliorera dans la soirée avec des éclaircies partout dans la région sauf dans la Haute-Marne où la pluie continuera à tomber. Quant aux températures, elles seront de 23 degrés à Nogent-sur-Seine, 22 degrés à Reims et 20 degrés à Rethel. La journée du dimanche 2 juillet sera ensoleillée avec des éclaircies tout au long de la journée. Néanmoins, les températures de la matinée seront très basses avec des maximales de 16 degrés à Vitry-le-François et 3 et 15 degrés à Rethel. L'après-midi sera agréable avec des températures de 21 degrés à Reims, Charleville-Mézières et Chaumont. Les températures de la soirée seront de 23 degrés à Épernay et Nogent-sur-Seine et 20 degrés à Langres. Samedi, ce sera la Saint-Thierry et dimanche la Saint-Martinien, donc bonne fête d'avance à tous les Thierry et Martiniens.
Et avec quelques heures d'avance, une bonne fête à Thierry à la réalisation ce soir, donc notre technicien ici à RCF, Reims-Ardennes. Merci Raphaël. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardennes continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et peut-être que les conditions météorologiques du week-end vous donneront l'envie de sortir pour vous distraire, vous amuser. Et ça tombe bien, on a une idée de sortie pour vous. On vous propose de se rendre dans un petit village de l'Aube, proche de la Marne et de la Haute-Marne, d'Aulencourt. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Nigloland, les plus jeunes de nos auditeurs et même les plus anciens se souviennent sûrement de ce parc d'attractions ouvert en 1987. 36 ans plus tard, ce sont 43 manèges qui vous sont proposés pour un seul billet d'entrée. Les précisions de Frédéric Doré, chargé de communication à Nigloland, au téléphone avec Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne.
Frédéric Doré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication
de Nigloland. Alors Nigloland, c'est un petit village gaulois.
C'est à peu près ça, ouais, dans la campagne du département de l'Aube.
C'est près de quoi, Nigloland?
Nigloland, on est basé entre Troyes-et-Chaumont. Et le village où on est installé s'appelle exactement Dolencourt.
Alors Dolencourt, c'était un village qui appartenait au propriétaire de Niglo.
Qui appartenaient à leurs parents. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de s'installer sur ce village.
C'est des forains à l'origine ?
Effectivement, Philippe et Patrick Génis, les deux frères fondateurs, sont des forains qui ont choisi de se sédentariser en 1987 et de s'installer donc à Loulancourt pour créer leur propre parc d'attractions. À l'époque, voilà, on parlait de l'installation de Disneyland Paris, par exemple, qui arrivait quelques années après, etc. Ils se sont dit qu'effectivement, créer un parc d'attractions, c'était l'avenir, et que finalement, voilà, au-delà de l'effet de foraine, de payer un tarif unique pour accéder à de nombreux manèges, c'était sans doute un très beau projet.
On va dire que ça fait une trentaine d'années que ça existe.
Oui, le parc a été inauguré le 1er juin 1987, au départ avec une dizaine d'attractions, quelques points de restauration. Et puis en fait, dès la première année, Philippe et Patrick Génis ont été surpris par le succès de Nigloland, le nombre de visiteurs qui étaient accueillis. Et donc ça leur a permis très rapidement de réinvestir dans des nouveaux manèges et de faire croître comme ça, grandir le parc au fur et à mesure des années.
2023, il y aura des nouveautés ?
En 2023, on n'avait pas de grosses nouveautés, on avait une réhabilitation d'une attraction existante qui s'appelle la rivière enchantée, qui s'est transformée en rivière des fées, qui a été complètement revue, que ce soit la gare, les aménagements paysagers, la décoration. Enfin voilà, on a revu complètement l'attraction et elle a été ouverte du coup au public le 9 avril.
Alors quand on va à Dolencourt, on doit réserver, on arrive, il y a des parkings pour nous accueillir?
Effectivement, quand vous arrivez à Dolencourt, vous avez des grands parkings arborés, c'est le point fort de Nigloland, et qui sont gratuits aussi, c'est à préciser, parce que dans de nombreux parcs d'attractions, les parkings sont devenus payants pour accéder au parc. Soit vous achetez vos billets sur Internet, et du coup, ça vous permet de bénéficier d'un tarif attractif, soit vous pouvez également les acheter aux caisses du parc lors de votre arrivée.
C'est ouvert toute la journée, de quelle heure ?
Nos horaires varient, mais là, sur la période estivale, on va être sur 10h, 18h globalement. Tous les horaires et les jours d'ouverture sont disponibles sur notre calendrier qui est disponible en ligne sur le site internet de nigloland.fr.
Donc ça veut dire qu'on arrive à 10h et on peut repartir à 18h et tout le monde reste là, ils peuvent déjeuner.
Alors effectivement, une fois qu'on est entré dans le parc, on peut profiter de toutes les attractions du parc. Aujourd'hui, on a 43 attractions et spectacles à Nigloland qui permettent effectivement de faire en sorte que toute la famille passe une belle journée puisque ça plaît effectivement aux petits comme aux grands. On a beaucoup de manèges maintenant à sensation. Et puis, on retrouve également 8 points de restauration à l'intérieur du parc avec des thématiques différentes. Donc ça permet effectivement de déjeuner, de pouvoir faire une petite pause sucrée, goûter l'après-midi, ou de se faire plaisir à travers des petites commandes.
Quand on téléphone à Nigloland, on nous dit hôtel. Il y a des gens qui viennent et qui réservent pour plusieurs jours?
Et oui, effectivement. Depuis quelques années maintenant, on a un hôtel 4 étoiles qui s'appelle l'Hôtel des Pirates, qui est une offre hôtelière thématique sur le thème de la piraterie. Donc vous entrez vraiment dans un univers qui est fantastique dans cet hôtel avec une belle décoration. Et l'idée, c'est le dépaysement pendant tous ces jours. Alors voilà, ça complète vraiment une belle journée à Nigloland. Dans la continuité, vous passez un séjour à l'Hôtel des Pirates. Vous avez les jardins qui sont très beaux. Vous pouvez boire un petit cocktail dans un transat. On a une très grande aire de jeu pour les enfants également dans les jardins de l'hôtel. Un magicien qui vient faire du close-up au moment de l'apéritif. Et puis un très bon restaurant, une très bonne table. Donc ça complète vraiment la journée au parc.
Voilà, donc on peut arriver le matin, coucher sur place et repartir le lendemain tranquille, se reposer.
Effectivement, on peut presque, voilà, c'est des mini-vacances, le dépaysement garanti, et même pour les gens de la proximité, c'est le bonheur à côté de chez soi, quoi.
Eh bien, Frédéric Doré, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de Nigloland et que ça se trouve à Dolencourt, entre Troyes et Chaumont.
Merci à vous, avec plaisir.
Pour plus d'informations sur le parc d'attractions Nigloland, le site internet, c'est nigloland.fr.
Le 18-19 sur RCF.
On est ensemble jusqu'à 19h sur les ondes de RCF dans ce magazine régional, ce vendredi 30 juin au soir. Et on continue d'évoquer l'actualité. Tout de suite, on parle médecine avec le docteur Hervé Ruinard qui est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Docteur Hervé Ruinard, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai que parmi les sujets dont on entend parler de façon régulière, répétitive, il y a la question des urgences. Est-ce que pour le moindre petit bobo, des personnes vont un peu trop aux urgences. Et là, on rejoint le problème des médecins généralistes.
Tout à fait. Donc là, effectivement, je pense que les médecins généralistes ont bien compris leur rôle en premier recours, en première urgence. Donc si le patient exprime bien sa demande, c'est vrai, il ne faut pas chercher à précipiter, à cafouiller au téléphone, à donner des explications qui ne sont pas vraies. À partir du moment où on explique un motif qui ressemble urgent, la secrétaire ou le médecin, ou la secrétaire et le médecin permettent de faire une première régulation du besoin de soins, dire « Ok, je vais vous voir, je vais vous caler entre deux, je vais m'arranger pour vous voir pendant midi ou autre, pour pouvoir désengorger les urgences, puisque là, on a déjà eu ces derniers temps les premiers signes d'engorgement des urgences, même dans des grands hôpitaux de l'Est de la France. Donc, effectivement, on ne va pas encombrer et arriver à des contraintes de, comme on commence à le voir, une régulation téléphonique obligatoire par le centre 15 avant de pouvoir accéder aux urgences. Donc ça, c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Donc déjà, la médecine générale est toujours en place. Elle a une permanence de soins qui fonctionne.
Même le week-end, c'est la question du week-end souvent.
Alors le week-end, effectivement, on a une permanence de soins qui est organisée dans toutes les campagnes et dans toutes les villes. À Reims, on a une régulation. On a une maison médicale de garde avec un ou deux médecins en fonction de l'encombrement des urgences. Donc ça, c'est parfaitement régulé. Donc, c'est organisé. Donc, il n'y a normalement pas de souci. Après, il faut effectivement que ça n'encombre pas, que ça bouchonne pas, qu'on n'aille pas pour une piqûre de guêpe ou une piqûre quelconque ou une gratouille de peau, etc., un dimanche après-midi, débouler aux urgences parce que je veux absolument que mon gamin soit vu en extrême urgence parce qu'il se gratte. Ça, bon, il faut que les gens prennent un peu conscience. C'est, parce que à se comporter comme ça, ça sera le meilleur moyen de faire sauter les plombs du système. Et après, on va avoir des obligations de régulation qui commence à se mettre en place parce que les gens ne sont pas assez raisonnables.
Alors, docteur, il y a quand même une question parce que vous évoquez l'Est, on peut évoquer Strasbourg, où certains médecins étaient obligés d'aller voir l'ambulance ou d'aller voir le véhicule d'urgence sur des parkings parce qu'ils n'avaient pas accès.
Tout à fait. Il y a eu un encombrement donc en aval, ce qu'on appelle, hein, donc les lits d'hospitalisation après. Donc effectivement, bon, on a quand même une population démographique de personnes âgées qui vieillissent bien sûr de plus en plus, qui nécessitent de plus en plus de soins, qui peuvent se dégrader rapidement, etc. Et effectivement, on subit les restrictions qu'il y a eu dans les hôpitaux, restrictions qui s'est mis en place depuis de nombreuses années. Tous les hospitaliers l'ont signalé depuis, je dirais pas des décennies, mais plus d'une décennie, pour dire on réduit. Et à un moment, il nous faut quand même des lits, parce que les gens, on peut pas les laisser dans des ambulances sur des brancards toute la nuit ou pendant 48 heures, comme ça s'est vu les années précédentes, et comme ça se verra encore cette année. Alors l'hôpital n'est pas responsable, l'hôpital il travaille avec les moyens qu'on lui donne. Donc là encore, si les moyens financiers sont réduits, on estime que la santé c'est pas rentable, hein, comme le pensent beaucoup de nos énarques, eh bien effectivement, là le problème, il va aller en augmentant. Donc le problème, il est essentiellement politique, mais je ne jette pas la pierre à l'équipe actuelle, c'est un problème qui est largement ancien, mais qui ne fait que s'aggraver.
Alors, pour les urgences, on comprend bien que tout est lié. Il y a les urgences, il y a la médecine générale, il y a tout ça.
Et le problème, c'est que les vraies urgences, les urgences cardiologiques en particulier, ou vasculaires cérébrales, qui sont vraiment, où là, il y a un contre-la-montre qui se joue pour soulager et traiter le patient, eh bien, le risque, c'est que si on encombre ou le numéro 15, ou les services des urgences avec des choses inutiles, des gens qui nécessitent vraiment l'urgence, donc l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, lui, il a une perte de chance obligatoire, puisqu'en fait, il n'a pas accès aussi rapidement aux 15 ou aux services adéquats. Donc, effectivement, c'est une responsabilité collective qu'on a de prendre conscience, de dire, oui, ben, ma gratouille, mon machin ou ma douleur, elle va attendre, et puis je n'encombre pas le numéro 15. Parce que s'il faut attendre un dimanche matin plus de 5 minutes pour que le 15 décroche, c'est pas, je critique pas le 15, mais s'il y a une ligne d'attente téléphonique avec des gens, des appels, je dirais, relativement urgents ou peu urgents, eh bien, on encombre le 15.
Donc, c'est une question aussi d'évaluation des particuliers, mais ils ont toujours peur. Quoi,
Alors voilà, les gens ont toujours peur. Donc, il faudrait qu'il y ait un premier filtre. Alors, de vouloir tout regrouper sur le 15 est une politique qui est menée depuis très longtemps, puisque les SAMU protègent leur part du gâteau, hein, c'est tout. Le problème, c'est qu'on encombre la ligne du 15 avec des problèmes moyennement, voire peu urgents, parce qu'on a une douleur du genou, parce qu'on a un truc qui peut... Seulement, pendant ce temps-là, il y a une prise de données du patient, le numéro de téléphone, etc. Pendant ce temps-là, le gars qui fait son infarct, la ligne est occupée. Donc, effectivement, il y a une perte de chance. Quand ça se joue en minutes, eh bien, effectivement, il faut savoir réguler un peu les choses autrement. Alors, on avait demandé à ce qu'il y ait un autre numéro d'appel possible pour les soins dits moins vitaux. Mais pour le moment, c'est une fin de non-recevoir et ça restera le 15 que voilà, SAMU veut se protéger.
On a bien compris, docteur Hervé Ruinard, qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet qui va sans doute réémerger et qui est passionnant et qui intéresse beaucoup celles et ceux qui nous écoutent.
Merci docteur Hervé Ruinard, merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Nouvelle invitée désormais avec nous, Sandrine Segovia-Queny, qui a été nommée le 1er juin déléguée territoriale de la Marne à l'Agence régionale de santé du Grand Est. Elle succède à Thierry Alibert, qui était en poste de 2010 à 2022. Elle est avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne.
Sandrine Segovia-Queny, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans les studios de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes nouvelle déléguée depuis peu de temps.
Oui, je suis arrivée pour le 1er juin 2023, donc c'est un peu moins d'un mois.
Un peu moins d'un mois, vous succédez à Thierry Alibert qui était là depuis de nombreuses années à cette fonction.
Tout à fait, depuis la création des ARS.
Une fonction quand même importante, on en parlera dans un court instant. Mais dans un premier temps, Sandrine Segovia-Queny, on va parler dans quelques minutes de vous. Présentez-vous, d'où vous venez?
Alors, je suis marnaise, je suis née à Reims. J'ai commencé mes études de médecine à Reims. Et puis après, je suis partie pour des raisons familiales. Donc, j'ai poursuivi mes études de médecine à Nice. J'ai fait une partie de mon internat à Sydney, en Australie. J'ai donc validé une thèse de médecine générale à Nice. Et puis après, je suis partie à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai fait toutes mes spécialités d'urgence. Et j'ai travaillé comme médecin, capitaine, sapeur-pompier volontaire. J'ai aussi fait de la Croix-Rouge. Et puis après, je suis rentrée, comme on dit, je suis montée à Paris, comme disent les provinciaux que je suis. Et là, j'ai exercé différentes missions au sein du ministère de la Santé, d'un secrétariat général du Premier ministre, au ministère du Développement durable. Donc, je suis passée par être conseiller technique Biotox, oui. Par être conseiller de ministre santé en risque environnement auprès de Monsieur Jean-Louis Borloo. Et puis après, je suis rentrée à mon premier poste en ARS. J'ai été directrice santé publique et environnementale à l'ARS du Centre à Orléans. Puis j'ai été directrice générale adjointe à l'ARS du Nord-Pas-de-Calais. Pour la suite de mes fonctions, je suis rentrée dans le monde mutualiste où j'ai été DGA. Puis après, depuis 6 ans et demi, j'étais la directrice des actions médicales au sein de l'association AFM Téléthon. Puis j'avais le désir de revenir dans mon département. Puis le poste était vacant. Donc j'ai postulé et j'ai eu la grande joie d'être recrutée sur ce poste.
Quel parcours ?
Je dirais que j'ai beaucoup de chance et j'ai eu surtout la chance de faire ce qui me plaît et d'avoir toujours à cœur d'améliorer la santé et la santé publique au niveau d'une population. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de pouvoir le faire et de pouvoir continuer à le faire. Et là, maintenant, dans le département dont je suis issue.
Désormais, depuis le 1er juin, en tant que délégué territorial Marne à l'Agence régionale de santé Grand Est. Alors parlons de l'ARS Grand Est. Quel est son but ?
Alors, les ARS, il faut savoir, il y a deux grandes missions. Il y a le pilotage de la politique de santé publique et la régulation de l'offre de santé en région. Oui. La crise du Covid vous a bien démontré que le pilotage de la santé publique, ça comprend la veille et la sécurité sanitaire, mais oui, aussi l'observation dont on parle peut-être moins, le financement, l'évaluation, les actions de prévention. Donc, ça finance un tissu associatif très important dans la prévention et promotion de la santé, soit prévention tabac ou prévention du poids, de l'obésité chez l'enfant. Ça anticipe et ça prépare la gestion des crises sanitaires. Et lors de la crise Covid, on a beaucoup entendu parler de l'ARS en gestion, mais aussi en prévention. Et puis, ce que tout le monde aussi attend, c'est la régulation de l'offre de santé pour mieux répondre aux besoins et garantir l'efficacité du système de santé. Et donc, le rôle de l'Agence régionale de santé est là pour ça.
La région Grand Est à son ARS Grand Est. Et donc, il y a une déléguée dans chaque département de la région.
Oui, tout à fait. 10 départements, oui. 10 délégations territoriales. Et qu'est-ce que font ces délégations territoriales? Oui. Bah, ça décline localement la stratégie régionale de santé. Donc, ça assure effectivement une mission de proximité. Elle représente les directeurs généraux en étant les interlocuteurs privilégiés des élus, préfets, services de l'État, ainsi que des professionnels de santé dans leur territoire. Donc, elles sont une interface avec le niveau régional. Donc, il y a vraiment des directions métiers au niveau de l'ARS Grand Est. Sud-Est. Et il y a un travail quotidien avec les directions métiers qui sont les directions thématiques et les acteurs de proximité. Et c'est ainsi que les délégations départementales, elles accompagnent les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets. Ça peut être un établissement qui veut reconstruire, ça peut être un projet associatif avec comme objectif qui est les deux grandes missions qui sont la santé publique et puis le système de soins.
Parmi les gros dossiers en cours, si je peux dire, Sandrine Segovia-Quini, on parle souvent ces derniers temps des déserts médicaux. Est-ce que c'est la mission de l'ARS justement de veiller, de conseiller, de trouver des solutions face à cette problématique-là?
Oui, l'ARS est organisée effectivement pour répondre et pour effectivement aider à trouver des solutions dans cette question avec l'ensemble effectivement du tissu élu de l'ensemble des partenaires. Il y a effectivement des primes d'installation, il y a énormément de dispositifs qui sont là pour effectivement répondre le mieux possible dans les prérogatives de l'ARS à ce besoin pour aider justement à organiser leurs détentions estivales, détentions hivernales. Donc il y a un rôle d'organisateur, il y a aussi un rôle effectivement pour faciliter l'installation des professionnels. Il y a aussi les contrats qui sont faits pour les étudiants, médecine, infirmiers, oui, kinés, manipulateurs radio, sages-femmes, dont d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont en études, hein, les dossiers sont ouverts jusqu'à septembre pour financer leurs études pendant un an ou deux ans. Après, ils ont effectivement le fait de devoir, sur la période qu'ils sont restés, multiplier par deux, travailler dans un établissement public. Mais il y a vraiment ça, parce que c'est ça la mission. Pour lutter contre un désert, c'est effectivement faire avec les professionnels en exercice, mais c'est aussi investir sur les futurs professionnels de santé.
Autre dossier, gros dossier si je peux dire, de l'ARS Grand Est, Sandrine Segovia-Quini, c'est le schéma régional de santé, un projet à long terme on peut dire, et qui est sur le point de se concrétiser. On est en tout cas sur une concertation qui se termine en ce moment.
Oui, tout à fait. Le futur schéma régional de santé 2023-2028, qui prend la suite d'un précédent schéma régional de santé, vient de finir sa concertation. Il a été mis en concertation mi-juin, il finit sa concertation. C'est un moment où on peut plus modifier les choses. Il sera mis en consultation pour une période de 3 mois. Et comme toujours, tout le monde sur le site de l'ARS, il y a une fiche, on peut répondre, on peut adresser ses demandes, ses remarques. Et c'est quelque chose qui va tracer la feuille de route pendant les 5 prochaines années. Si je dois un petit peu vous donner les priorités 2023-2028, je dirais que la première priorité, on s'en rend compte dans notre vie quotidienne. C'est minimiser l'impact environnemental sur la santé des populations dans un contexte de changement climatique. Je ne vous parlerai pas du moustique-tigre, de la plante lambroisie qui crée des allergies. Tout ce qui a trait à la ressource en eau. Il y a énormément de choses qui sont liées aussi à la santé, à l'urbanisme et santé. C'est un sujet que nous devons aussi prendre en compte. La deuxième priorité, c'est renforcer la prévention au plus près des jeunes de 0 à 16 ans et de leurs parents. Parce qu'on sait très bien que entre 0 et 16 ans, beaucoup de choses se jouent, à la fois sur de nouvelles compétences, sur la prévention, sur la promotion, à la fois des enfants, mais aussi de leurs parents. Et donc, il y a un focus particulier qui est fait sur cette partie. Puis, troisième, ça nous concerne tous, c'est on encourage un écosystème de la santé favorable à la préservation de l'autonomie aux différents âges de la vie. Parce qu'effectivement, c'est à la fois personnes âgées, personnes en situation de handicap, c'est toutes les personnes qui peuvent, à un moment ou à un autre, être touchées par cette question de l'autonomie. Et la quatrième priorité, c'est optimiser l'accès aux soins non programmés dans chaque territoire. Nous devons avoir une réponse pour que chaque personne sur le département de la Marne puisse avoir une réponse à ses besoins de santé. C'est quand même un des objectifs prioritaires que l'on a.
On y reviendra dans les prochaines semaines sur ce schéma régional de santé, en tout cas ce nouveau schéma qui part sur l'année 2023-2028. Merci beaucoup Sandrine Segovia-Quini d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Et je rappelle que vous êtes la déléguée territoriale Marne à l'Agence régionale de santé Grand Est. À très bientôt, très bel été.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Merci Sandrine Segovia-Quini et Christopher Fausten depuis les studios de RCF à Châlons en Champagne. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne-Ardenne ce vendredi. On se retrouvera dès lundi 18h10 pour une ultime semaine tous ensemble en région avant les vacances d'été. Merci Raphaël d'être venu passer cette semaine de stage avec vous. On vous retrouve très bientôt, vous venez quand vous voulez finalement.
Merci à vous.
Et puis on vous souhaite de belles vacances.
Merci.
À très bientôt, Raphaël. Ah, cette fois, c'est la fin du magazine régional. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais sur les ondes de RCF. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.